Comme nous disions au début de la messe, la résurrection est l'événement fondamental de notre foi. Mais nous risquons, et si nous croyons les statistiques qui disent qu'après 30% des pratiquants croient à la résurrection, il nous faut absolument nous arrêter sur ce qu'est la résurrection et essayer de vivre quotidiennement avec ce mystère qui est au fondement de notre foi, qui est au fondement de notre vie chrétienne. D'une manière très belle et lumineuse, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, dans son livre sur Jésus, explique, essaye de tenter, de nous aider à comprendre et surtout à chasser quelque part ce que n'est pas la résurrection et qui souvent nous embête pour essayer de penser, parce qu'effectivement c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe à la résurrection. Mais il insiste pour dire ce n'est pas comme la résurrection de Lazare, le retour à une vie, à la vie biologique ordinaire, et qui par la suite, suivant les lois, voudrait qu'il meure à nouveau. Ce n'est pas non plus un fantôme, comme indiquent les passages de l'Écriture, surtout en Saint Jean aussi, un esprit, ce qui voudrait dire que c'est quelqu'un qui revient du pays des morts. Ce n'est pas non plus une expérience mystique qu'ont vécu les apôtres à ce moment-là, qui serait une expérience mystique qu'on pourrait définir un peu comme un dépassement momentané du domaine de l'âme et de ses facultés perceptives. Non, avec la résurrection, il s'agit de quelque chose de totalement nouveau. Un événement qui fait partie de notre histoire, mais qui en même temps la fait éclater. Alors il essaye de prendre une analogie en disant ben, c'est comme un saut qualitatif, quelque chose de nouveau. Et il rappelle, Benoît XVI, dans son passage, que pour bien comprendre, bien plus la matière elle-même est transformée en un nouveau genre de réalité. Désormais, avec son propre corps lui-même, l'homme Jésus appartient aussi et totalement à la sphère du divin et de l'éternel. Et il rapporte cette phrase de Tertullien, « L'esprit et le sang ont leur place en Dieu. » Même si l'homme, selon sa nature, est créé pour l'immortalité, le lieu où son âme immortelle trouve un espace n'existe que maintenant, et c'est dans cette corporéité que l'immortalité acquiert sa signification en tant que communion avec Dieu et avec l'humanité tout entière réconciliée. Cette phrase un petit peu difficile, je voudrais la reprendre avec notre texte des disciples d'Emmaüs, en faisant le lien aussi avec Emmaüs et voir ce qui se passe et comment cela est déterminant et comme cela met aussi, donne comme le schéma de notre prière, de notre vie de relation à Dieu. Et comment il est invité, cet événement d'Emmaüs et ces événements de la résurrection, à alimenter et à transformer nos moments de prière. Ce qui est marquant dans ce texte, et on insiste beaucoup sur les disciples qui marchent et qui font route avec Jésus. On dit que c'est ceux qui avaient marché avec Jésus, et puis on dit que Jésus s'approche et qu'il fait route. Et en effet, ce que nous voyons, c'est qu'en Jésus, Dieu se fait proche des hommes et qu'il va entrer dans nos histoires et qu'il va rendre vie à notre destin quotidien, qu'il va donner une toute autre dimension à notre quotidien. Prier, ce n'est pas passer dans un autre monde, ce n'est pas faire d'autres, mais c'est laisser Jésus nous rejoindre sur la route. Et c'est important de voir, surtout chez Saint Luc, que nous lisons aujourd'hui, la familiarité avec Jésus, qui est comme constitutive de la réalité de la résurrection. Parce que si nous vivons de la résurrection, cela ne va pas dire que nous allons abandonner la simplicité des jours avec son bagage de hasard, d'incohérence, d'imprévu. Alors on voit les apôtres qui ont vécu, les apôtres, les deux disciples ici, Cléophas et Simon, qui ont vécu et qui ont entendu les apôtres, qui ont entendu même ces événements de la résurrection. Comme nous avons entendu le témoignage des apôtres, le témoignage dans l'Église des saints et de toute l'Église qui proclame que Jésus est ressuscité. Mais il termine, mais lui, ils ne l'ont pas vu, nous ne l'avons pas vu. Et ils insistent sur cette déception, comme souvent dans notre vie de prière, dans notre vie de relation à Dieu, nous pouvons à certains moments entrer dans des moments de déception, me dire, est-ce qu'il est bien là? Est-ce que notre vie, est-ce que ce mystère, il est bien au cœur de notre vie? Il faut regarder que Jésus écoute leur histoire. Jésus les invite même à relire, à reprendre la relecture qu'ils ont fait, et il les invite à écouter eux-mêmes ce qu'ils vivent. Et il va manifester dans leur histoire, il manifeste dans la prière aussi, dans nos histoires, ce qu'on peut reconnaître quand on les a bien écoutés, et laisser voir comment le destin de Jésus, la vie de Jésus, comment les passages aussi qui éclairent cette vie de Jésus et cette marque de Dieu dans notre monde à travers les Bibles, les divers récits de la Bible. Et ici, Jésus fait cette anamnèse de l'Écriture et de leur histoire pour montrer comment, eh bien, il y a cette trace, cette présence de Dieu qui est dans la vie de tous les jours. Et Jésus va les inviter, va leur montrer par cette anamnèse, ce souvenir, ce repasser ce qu'il y a à découvrir que le Seigneur, combien le Seigneur, combien la présence de Dieu, combien cet accompagnement de la grâce, eh bien, est avec eux. Cette anamnèse, Jésus ne la fait pas que dans un discours. Mais c'est vraiment aussi dans l'événement pascal que se dissipent tout à coup toutes les ombres de tout ce qui a été préparé, de ce qu'on voyait simplement en figure, comme va le dire l'Écriture. Mais c'est avec cette présence de Jésus. Et c'est là où c'est important ce petit passage, ce moment auquel il nous faut faire attention. Quand ils arrivent, ils ont entendu Jésus parler, ils ont fait ce travail d'anamnèse, on pourrait dire le temps de prière qu'on prend, le temps de méditation que l'on prend. Mais à ce moment-là, ils disent, reste avec nous, demeure avec nous. Et pour la vie de prière, c'est cela qui est important aussi, de passer, de retenir Jésus auprès de nous, de l'inviter à s'asseoir à la table de notre vie, de ne pas le laisser passer. Ce n'est pas une activité comme les autres, ce n'est pas quelque chose, mais de rentrer dans cette présence, de goûter sa présence, de le laisser être présent. Et ensuite, c'est à travers cette commensalité, ce partage du pain ensemble. L'expression, le verbe est très fort, en grec c'est partager le sel. Et ici il y a comme une allusion, c'est une expression en grec pour dire partager le pain, mais c'est partager le sel. Et il y a une allusion au sel qui est, comme on le voit dans l'Évangile, qui est le signe de ce qui ne se corrompt pas, ce qui va permettre de garder les aliments. Et cette alliance du sel, cette alliance perpétuelle qui continue, comme aussi ici un signe de la résurrection. Et c'est ce partage du pain qui va donner à nos vies d'être communion. Jésus s'attable avec nous. Et ainsi Jésus va pouvoir leur découvrir et nous découvrir que nous sommes en communion avec lui, en communion de destin avec lui, en reconnaissant dans sa vie, en reconnaissant dans sa passion, combien, eh bien, il n'est pas étranger à nos vies, mais combien il vient jusque dans nos ténèbres pour y apporter sa lumière. Une chose importante, c'est qu'ils vont se rendre compte, dès qu'ils se rendent compte que c'est lui et qu'ils ouvrent les yeux, eh bien, il disparaît. Il disparaît en tant qu'individu distinct. Mais sa présence devient transparente dans ce qu'il vit. Il n'est plus un troisième personnage qui a pris place à table avec eux, mais il est passé dans leur vie. Tellement enfoui quelque part qu'au début ils ne l'ont pas reconnu, mais il est là, vivant, sous les espèces et apparences du pain rompu, mais aussi sous les espèces et apparences de leur existence concrète. Et vous notez bien combien dans la messe on insiste beaucoup. Nous offrons le pain et le vin comme prémisse du corps du Christ, mais pour que nous devenions corps, pour que ce soyons nos vies concrètes qui sont offertes et qui rentrent dans cette présence et qui deviennent enveloppées dans cette vie qualitative nouvelle, comme disait Benoît XVI, ou plus exactement ontologiquement nouvelle, car c'est une nouvelle manière d'exister qui nous est donnée dans la résurrection, pour que nos vies concrètes touche à ce qu'il y a d'éternel. Et il n'y a pas d'autre lieu pour l'éternel que notre chair, que ce que nous sommes. Voilà le travail de la prière. Voilà où elle nous conduit. Voilà le mystère qu'il s'y déroule. Demandons la grâce, eh bien, de l'Esprit Saint pour la vivre dans sa vraie dimension et non pas simplement comme une prière païenne qui tâtonne et qui essaye de découvrir le Seigneur, de voir des signes, de voir des vestiges de Dieu, de voir des traces, mais de laisser cette présence de Dieu eh bien, entrer dans nos vies. Pour terminer, il faudrait regarder cette remarque qu'ils font. Parce qu'ils ont besoin aussi, et c'est un des mouvements de la prière, ils ont besoin de se rendre compte, ils ont besoin de rendre grâce, ils ont besoin de faire un certain retour sur eux-mêmes pour découvrir ce qu'ils vivent. Et c'est dans cette phrase extraordinaire, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» En effet, c'est déjà l'Esprit Saint qui travaille, qui se manifeste comme un feu et qui, comme à la Pentecôte, se révélera par ces langues de feu. Parce que la prière, c'est bien le lieu de ce baptême dans l'Esprit Saint et le feu que Jésus a appelé sur nous pour que nous vivions, nous, concrètement, de la résurrection. Et ensuite, il retourne, et il retourne directement pour témoigner, de témoigner avec force, avec courage. Ils marchaient, ils étaient découragés, ils étaient épuisés, ils allaient dormir à l'auberge le soir, et puis ni une ni deux, ils repartent. Ils sont pleins de cette force qui anime Pierre aussi dans le discours que nous entendions, ce Pierre craintif, ce Pierre qui était plein de questions, ce Pierre qui ne pouvait pas comprendre avec les apôtres, comme la question de Judas, qui est d'ailleurs celle qui a fait tomber tout le monde. Comment se fait-il que tu ne te révèles qu'à nous et non pas au monde, que ta présence est ta présence de Messie, ta présence de ressuscité, elle n'est pas évidente à tout le monde, hein, et que ce soit pas... comment se fait-il? Mais c'est dans cette entrée, eh bien, dans cette reconnaissance. Alors il découvre, je vous disais, cette force de l'Esprit-Saint, cette force du témoignage. Et c'est aussi un des aspects de notre vie de prière. On le voit bien dans la structure de la messe. À la fin, ça passe presque inaperçu, parce que c'est l'envoi, hein, l'envoi en mission, aller dans la paix du Christ et proclamer et partager cette présence du ressuscité dans ce surgissement, il faut dire, du ressuscité dans nos quotidiens. demandons qu'en ce jour qui nous est donné, qu'en ce dimanche de prière, eh bien, nous rentrions dans cette dimension de la prière qui ne peut pas se comprendre sans ce mystère de la résurrection du Christ.